Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Bonsoir. L'Élysée a pris des airs de cabinet de consultation ce mardi. Emmanuel Macron cherche le remède pour gouverner malgré une assemblée morcelée. Il a reçu les responsables des partis et envisagerait un gouvernement d'union nationale. Elisabeth Borne priait de rester à son poste. Le président a refusé ce matin sa démission. La première ministre doit montrer qu'elle reste au travail. Elle a reçu son gouvernement à Matignon. La violence des orages et l'ampleur des dégâts dans le sud-ouest. Reportage à suivre près de Bordeaux. Bordeaux, où la grêle a fait des ravages. Vous entendrez aussi le désarroi des viticulteurs. 25 départements maintenus en vigilance orange. Météo complète à la fin de ce journal. La fête de la musique souffle ce soir sa 40e bougie et toujours autant de succès. On ira le vérifier tout à l'heure sur les quais de Seine à Paris. L'invité écho ce soir, on va parler de vos chiens et de vos chats avec Alban de Préville, cofondateur et PDG de Dalma. Une nouvelle appli pour prendre soin de vos animaux de compagnie. Et puis juste avant la libre antenne, les unes de la presse pour demain matin.
Europe 1.
Enchaîner les tête-à-tête pour éviter le tête-à-queue. Emmanuel Macron a enchaîné les rendez-vous toute la journée avec les responsables des partis en mesure de former un groupe à l'Assemblée. Le président recherche toujours la bonne formule pour continuer à gouverner. Jacques Seret.
Oui, pas moins de 6 responsables politiques reçus depuis ce matin à l'Élysée. À chaque fois, des rendez-vous d'une heure environ. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, n'en est pas ressorti subjugué.
Face à moi, que pouvait-il dire? Il n'allait pas dire « t'as tort sur tous les sujets ». Il était obligé d'écouter et puis après, est-ce qu'il en tiendra compte? Je n'en sais rien. Peut-être qu'en réalité, c'est une mise en scène qui sert juste sa communication, qui permet de dire « j'ai écouté, j'ai cherché » et puis après, il n'en fera rien. C'est une possibilité.
Un président à l'écoute, mais est-ce qu'il entend? Marine Le Pen a fait part de son interrogation à la sortie du palais. Elle, qui a tenu lors de ce rendez-vous, a expliqué la position de son parti.
Le groupe de 89 députés que j'ai l'honneur de présider est un groupe qui est dans l'opposition, mais ne souhaite pas être dans l'obstruction systématique. Par conséquent, si des mesures sont proposées qui vont dans le bon sens, nous les voterons. Si elles vont dans le mauvais sens, nous les amenderons. Et si elles ne sont pas amendées telles que nous le souhaitons, eh bien nous nous y opposerons.
Position semblable du côté des Républicains. Nous restons dans l'opposition de manière déterminée, a expliqué Christian Jacob, pour qui il n'est pas question de rentrer dans une logique de coalition. Et si Emmanuel Macron ne s'est toujours pas exprimé, François Bayrou, son allié du Modem, reçu également, donne peut-être un indice sur l'état d'esprit du président.
Devant les difficultés très grandes qui nous attendent, il faut s'approcher aussi près que possible de l'Union nationale. C'est en travaillant ensemble, dans des débats qui soient respectueux, ouverts, même s'ils sont chauds, que nous ferons ce que, au fond, les citoyens attendent de nous.
Une union nationale qui semble bien loin ce soir. Emmanuel Macron va poursuivre demain matin ses consultations avec notamment les responsables d'Horizon, d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise.
Jacques Seret en direct de l'Élysée pour Europe 1, objectif union nationale, vous le disiez Jacques, avec cette dernière minute selon le communiste Fabien Roussel, dernier interlocuteur reçu ce soir à l'Élysée, Emmanuel Macron envisagerait de former un gouvernement d'union nationale pour sortir de l'impasse politique et contourner la perte de sa majorité absolue à l'Assemblée. On disait Elisabeth Borne sur un siège éjectable, Emmanuel Macron a refusé ce matin la démission de sa première ministre. La locataire de Matignon reste au travail. Elle y a d'ailleurs reçu son gouvernement cet après-midi. C'est donc le message que le président veut faire passer dans l'opinion. Arthur Delaborde, Elisabeth Borne et son équipe restent à leur tâche.
Oui, un gouvernement au grand complet, mobilisé et uni, c'est l'image que voulait envoyer l'exécutif cet après-midi. Tous les ministres étaient autour de la table, même Amélie de Montchalin à la transition écologique, Brigitte Bourguignon à la santé et Justine Bénin à la mer. Battus toutes les trois dimanches, leurs jours sont comptés, mais dans l'immédiat, l'heure n'est pas au remaniement et il n'y a pas de paralysie politique, comme l'a martelé la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire.
On a un certain nombre de décrets à prendre. Je ne crois pas que les Français, j'en suis même sûr, aient fait le choix de l'immobilisme. Nous avons donc un gouvernement qui est au travail. Un président de la République est en ce moment même en train de consulter, d'écouter les forces politiques. Pour ce qui est des questions relatives à la Première ministre, je vais donc y couper court tout de suite. Elle est au travail Elle prépare les prochains jours avec le gouvernement.
Et alors que le président de la République a refusé sa démission, Elisabeth Borne, elle veut montrer qu'elle est bien la chef de la majorité. Elle sera demain matin devant les députés du camp présidentiel à l'Assemblée. Elle recevra également tous les chefs des groupes parlementaires la semaine prochaine à Matignon.
Merci Arthur Delaborde. Et tandis que Jean-Luc Mélenchon appelle Elisabeth Borne à se soumettre à un vote de confiance des députés, aux yeux du leader des Insoumis, la première ministre n'a plus aucune légitimité pour gouverner. Les députés font depuis hier leur rentrée à l'Assemblée. Le Palais Bourbon va aussi accueillir le plus jeune député de la 5e République, Tematai Le Gaïc, n'a que 21 ans, député NUPES. Il a été élu en Polynésie française. Alors autant dire que ce n'est pas la porte à côté pour faire la navette entre l'hémicycle et sa circonscription. On va dire 20 heures d'avion. Johan Tritz, vous avez rencontré ce matin ce très jeune élu à Roissy. Beaucoup de fierté, hein, Johan, pour lui, à la descente de l'avion.
Oui, et c'est d'ailleurs habillé d'une chemise à fleurs traditionnelle que Tematai Le Gaïc est arrivé à l'aéroport, le sourire aux lèvres, même si la fatigue se fait ressentir.
On ne s'habitue pas du tout à ces 24 heures de vol.
Arrivé tout droit de Polynésie, deux jours seulement après sa victoire aux législatives, faisant de lui le plus jeune député de toute la 5e République. Une fierté pour l'homme de 21 ans.
Je suis content parce que ça met en avant la jeunesse. On est normalement des citoyens éclairés qui peuvent prendre des choix. La loi ne nous interdit pas de se présenter à 18 ans, alors il faut prendre ce courage à deux mains et ne pas toujours dire que parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on a 20 ans de carrière, qu'on est les plus légitimes à faire de la politique.
Une parole déjà très directe pour celui qui a dû mettre de côté ses études de sciences politique. Un choix assumé. Cette nouvelle vie au sein de l'Assemblée nationale ne l'effraie pas. Il a même hâte de pouvoir commencer à travailler.
On est à 20 000 km de l'Assemblée nationale. On n'a pas forcément le temps de rester longtemps parce que sinon on met de côté notre circonscription et on doit tout de suite se mettre au travail. Et c'est plus cette crainte de décevoir qui m'incombe. C'est pour ça aussi qu'on est excité peut-être, c'est de rentrer avec des avancées sur des dossiers importants.
Avec une priorité donnée à la préparation du processus d'indépendance de la Polynésie française.
Johan Tritz, ce matin à l'aéroport de Roissy. Le pouvoir d'achat sera l'une des préoccupations centrales de cette nouvelle Assemblée. Dans la trop longue liste des produits qui flambent, le prix des fournitures scolaires s'envole ou va s'envoler, alors qu'il va falloir justement refaire le plein de cahiers et de stylos pour la prochaine rentrée. La FCPE, syndicat de parents d'élèves, demande une revalorisation de l'allocation de rentrée et un versement anticipé dès le début du mois de juillet. Éric Labastille est le secrétaire général de la FCPE.
La courbe aujourd'hui de l'inflation elle est plutôt sur une pente ascendante. Par exemple, les cahiers prennent 10%, les feuilles prennent entre 15 et 20%, et ça peut monter jusqu'à 40% pour certaines calculatrices. C'est un montant particulièrement important pour beaucoup de familles, en sachant en plus que le coût de l'année scolaire pour les familles, ce n'est pas seulement les fournitures, c'est aussi l'habillement et très certainement aussi une hausse des prix des cantines scolaires, de l'internat. Donc tout ça fait que les familles doivent anticiper au mieux toutes ces dépenses-là.
Éric Labastille de la Fédération de parents d'élèves FCPE. Les orages menacent toujours le sud-ouest. Ce soir, Météo France a maintenu 25 départements en vigilance orange et on verra cela en détail avec Marlène Duret. En fin de journée, près de 10 000 foyers étaient toujours privés d'électricité en Dordogne et en Gironde, déjà frappés par des orages de grêle particulièrement violents, notamment au Taillan-Médoc, près de Bordeaux. Stéphane Place s'y est rendu pour Europe 1 à l'heure du recensement des dégâts. Peu de toitures ont résisté au grêlon. Reportage.
Oui, bleu, kaki, gris. Ici, les toits autour de moi ont changé de couleur en l'espace d'une journée, car beaucoup sont désormais recouverts de bâches. Depuis ce matin, les sinistrés comme Clément constatent les dégâts provoqués par ces grêlons gros comme des balles de tennis.
Déjà, on a pris peur avec les tuiles qui ont explosé dans la maison. Une fois que c'est terminé, on est sorti. C'était l'enfer partout dans la rue. On prend l'eau directement dans les combles, ça coule directement dans la maison. Puis là, les voitures, il n'y a aucune voiture qui a survécu.
À la mairie, d'ailleurs, défilent des habitants qui viennent chercher des informations et des conseils pour surmonter cette catastrophe.
Bonjour madame.
Bonjour. On a un Vélux qui a complètement éclaté, donc on est quand même à ciel ouvert. On va passer en catastrophe naturelle, et là, comment ça va se passer?
Madame le maire s'en est occupée, elle attend la réponse de la préfète.
Bah après, on a à peu près 150 tuiles qui sont cassées. On va essayer de bâcher tout le toit, là.
Les tuiles, on a un adjoint, là. Sa femme est partie à Castillon. gagnons la bataille, chercher des tuiles. Il faut aller les chercher dans des dépôts qui sont assez loin de la commune.
Une solidarité qui s'organise aussi grâce aux habitants qui s'en sortent bien, comme Olivier.
J'ai une chambre disponible chez moi, deux chambres d'enfants. Je peux donc accueillir un couple avec deux enfants. Franchement, j'ai rien. Donc, quand j'ai vu des photos de gens qui ont leur appartement ou leur maison qui est dévastée, on peut être solidaire, c'est normal.
Solidaire et pas complètement rassuré au Taillant-Médoc, ce soir on regarde avec inquiétude le ciel, toujours susceptible de réserver encore une mauvaise surprise.
Et Stéphane Place au Taillant-Médoc, au nord de Bordeaux, dans le vignoble bordelais. Ce sont des milliers d'hectares de vignes qui ont été endommagés par des chutes de grêle d'une extrême violence, selon les organisations viticoles du Sud-Ouest. Christophe Château est le porte-parole du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.
On sait qu'on est déjà à plusieurs milliers d'hectares touchés. Certaines parcelles qui ont été particulièrement touchées, il n'y a plus du tout de feuilles ou de tiges vertes dessus, et on dirait des parcelles qu'on vient de tailler au mois de janvier ou au mois de février. On est revenu 6 mois en arrière, il n'y a plus aucune végétation, ni feuilles, ni grappes bien sûr, et donc l'impact est très fort pour la récolte 2022, et il risque d'y avoir pour certains même un impact pour la récolte 2023. C'est très dur parce que la répétition de ces aléas climatiques porte atteinte à l'économie des entreprises, et pour certains c'est dur de voir se relever le matin et de voir quasiment une année de travail, une année de chiffre d'affaires mise par terre en quelques minutes liée à un événement complètement indépendant de leur volonté, et ça de plus en plus fréquemment, donc ça commence vraiment à poser des vrais problèmes dans l'économie des entreprises viticoles.
Christophe Château du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, joint par Chloé Lagadou.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
La crise du Covid s'éloigne, la sécurité routière recule. Le nombre de morts sur les routes de France a bondi de 21% par rapport à 2019, qui reste bien sûr l'année de comparaison la plus fiable avant la pandémie. Le chiffre le plus alarmant, eh bien, il concerne les vélos. La mortalité des cyclistes sur les routes a été multipliée par 4 sur les pistes cyclables parisiennes. Arthur Pereira est allé rencontrer des cyclistes qui n'ont pas toujours conscience de leur grande vulnérabilité.
14h, le feu est rouge et seulement un vélo sur 10 s'arrête. Sans casque et avec de la musique sur son enceinte, Pierre a vous multiplié les incivilités.
Je grille presque tous les feux, ouais. C'est assez indécent. Ouais. Non, je me suis pris quelques amendes. Donc, je m'en suis pris 3 là, récemment, sur les 2 dernières années. Je grille un feu à côté de la police, voilà.
Gilles, lui, se déplace quotidiennement sur son VTT flambant neuf. Aguerri, le cinquantenaire, reste tout de même prudent.
Je ne mets jamais de casque au sens auditif sur les oreilles et je fais attention à ce que font faire les autres véhicules. Je regarde si les gens sont au téléphone dans les voitures, donc c'est pas mal d'anticipation.
Gants de protection, gilet fluorescent sur le dos et casque noir sur la tête. Denis prend toutes les précautions depuis son dernier accident.
C'était à Orsay sur un rallye en VTT et pour éviter un autre concurrent, j'ai été droit dans un arbre. Et je pense que si j'avais pas eu le casque, j'aurais été sérieusement blessé.
Le mois dernier, 22 cyclistes ont perdu la vie sur les routes de métropole.
Arthur Pereira, prudence donc à l'heure d'enfourcher son vélo et bien sûr aussi au volant avec les deux roues. Nous allons maintenant en Ukraine où l'armée russe continue sa progression dans le Donbass, dans l'est du pays. L'armée ukrainienne ne peut pas rivaliser en force de frappe, mais elle oppose une résistance acharnée. Elle reçoit régulièrement des renforts, des hommes, des armes. Nicolas Toneff, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans le Donbass. Dans cette région, vous avez rencontré Nikita avec sa compagnie de chars. Vous êtes resté en contact avec ce jeune officier, Nicolas. Il vous envoie régulièrement des nouvelles du front.
Oui, Mikita, lieutenant, il se retrouve à 21 ans, meneur d'hommes en guerre, alors qu'il est tout juste diplômé de son école militaire. Et il est de ceux qui veulent faire savoir ce qui se passe, ce qu'ils font sur le front. Alors, pour le contexte de ce que vous allez entendre, il a été envoyé cette fois à la rescousse vers Lysychansk. Il parle depuis son véhicule en roulant sur un chemin de terre. Devant lui et à sa droite, la guerre avec la fumée des bombardements au-dessus de la raffinerie de la ville, au cœur de la zone de combat actuelle.
Aujourd'hui, on est le 21 juin et l'armée russe continue de bombarder une raffinerie de Lysychansk. Là, vous pouvez voir par ici un M777 détruit. C'est un canon qui nous a été fourni par les forces britanniques.
Alors, il faut imaginer le courage qu'il y a à être dans ces combats sous les bombardements russes. Les véhicules que l'on voit le plus sur les routes ici, ce sont les ambulances militaires. Au front, l'espérance de vie est limitée. Et pour dire à quel point les hommes cherchent à se rassurer lors d'une longue attente pour trouver de l'essence, nous avons croisé un soldat ukrainien qui montrait de manière obsessionnelle la photo du corps d'un soldat russe qu'il disait avoir tué en répétant un de moins.
Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Les 27 sont tous d'accord pour accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne. Un consensus total se manifeste, selon le ministre des Affaires européennes Clément Beaune, à deux jours du sommet européen qui doit confirmer ce feu vert. Les temps changent pour l'Olympique lyonnais. Cette fois, c'est fait. L'OL passe dans les mains d'un homme d'affaires américain. Jean-Michel Aulas gardera son poste de président pendant au moins 3 ans. Il faisait les présentations cet après-midi au Groupama Stadium avec le nouveau propriétaire du club, Jean-Luc Boujon. Il s'appelle John Textor.
Eh bien oui, on a donc vu ce John Textor, américain jovial et bronzé de 56 ans, qui a fait fortune dans les effets spéciaux pour le cinéma américain et qui possède déjà plusieurs clubs, un au Brésil, un en Belgique et un en Angleterre, Crystal Palace. C'est donc lui le nouveau boss de l'OL puisqu'il va bientôt racheter 66% des parts du club pour un montant qui n'a pas été précisé mais qui avoisinerait les 500 millions d'euros plus 86 millions que Textor va injecter tout de suite pour le recrutement estival du club. L'homme d'affaires américain qui ne veut pas brûler les étapes mais qui a de l'ambition pour l'OL et qui sait déjà comment se mettre les supporters dans la poche. Écoutez.
J'espère qu'on va pouvoir gagner une Champions League, une Ligue des Champions. J'espère qu'on va pouvoir rêver de ça. Je pense que c'est possible. J'aime pas ces modèles comme le PSG. J'espère qu'on va pouvoir les battre.
Alors il a concédé que cela pourrait prendre quand même plusieurs années, des années durant lesquelles il sera accompagné par Jean-Michel Aulas qui reste donc à la tête du club pour l'instant. C'était une des conditions posées pour le rachat, explique le président de l'OL.
Je me suis engagé 3 ans minimum avec John. Ça suppose beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue. Donc pour le moment, on est dans un deal avec un minimum de 3 ans.
De quoi rassurer les supporters qui se méfient un peu de cet Américain qui tout à l'heure a quand même beaucoup parlé business, y compris quand il s'agissait de répondre à des questions sportives.
Jean-Luc Boujon au Groupama Stadium, près de Lyon. Changement d'époque en vue aussi au PSG, les paillettes. C'est fini, explique le président du club aux Parisiens. Au passage, Nasser El Khelaifi assure n'avoir jamais eu aucun contact avec Zinedine Zidane pour le poste d'entraîneur du PSG. Le patron du club a sa shortlist. Il confirme en revanche des contacts en cours avec Christophe Galtier, l'actuel entraîneur de Nice. La première soirée d'été, c'est aussi la plus longue. 21 juin, on va pas trop vite. Solstice d'été, un solstice marqué cette année par le 40e anniversaire de la fête de la musique. À Paris ce soir, la fête bat son plein. Guillaume Dominguez a remonté les quais de Seine. Beaucoup de monde et dans une très bonne ambiance.
Les Parisiens se sont appropriés les bords du fleuve. Tous sont assis par petits groupes, entre amis ou parfois en famille. Certains sont même très bien équipés. Anna vient d'Angleterre, assise sur une nappe à carreaux, verre de vin à la main. Elle découvre la fête de la musique pour la première fois.
Oui, c'est génial. Moi, je viens de l'Angleterre et on n'a pas quelque chose comme ça là-bas. Donc moi, je trouve vraiment génial d'écouter plein de types de musique différents, dans plein d'endroits différents, des bars, dehors, dans les petits clubs. C'est vraiment chouette.
Face à elle joue une fanfare qui entonne l'hymne des avirons bâillonnés. Un peu plus loin, Yanis et son groupe d'amis profitent d'un DJ venu mixer sur une planche de bois et de tréteaux.
C'est vrai que nous, on est étudiants pour le moment, donc pour nous, ça représente, je pense, aussi une occasion de sortir. C'est de la bonne ambiance un peu partout dans Paris, donc on peut aussi en profiter, prendre du bon temps entre amis. Voilà, il fait beau, il fait chaud à Paris, donc autant en profiter, quoi.
Profiter, c'est ce que comptent faire Jackson et son groupe de danseurs. L'ambiance ici est plutôt hip-hop.
C'est un groupe d'amis, on aime bien danser entre nous. Et en fait, là, pour l'occasion de la fête de la musique, on est juste venu s'ambiancer avec... tout le monde, quoi. Comme on sait que la fête de la musique, on peut faire du bruit, on va mieux faire du bruit.
Faire du bruit jusqu'au bout de la nuit, et Jackson m'a confié vouloir danser jusqu'au lever du soleil demain matin.
Un reportage Guillaume Dominguez sur les quais de Seine à Paris. Pas perturbé, hein, les Parisiens ce soir par les orages. Voyons ça avec vous, Marlène Duré. Le temps, on a en revanche Marlène entre deux pas de danse hein, que vous venez d'effectuer sous nos yeux ébahis. Des orages donc, pas en Ile-de-France, mais dans plusieurs régions de France et qui viennent parfois gâcher cette fête de la musique.
Absolument, hein. On en a en ce moment en fait vers le nord de l'Occitanie, remontant vers l'Auvergne. Et puis ça va continuer comme ça jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté en fin de nuit. Prochaine salve orage. Parce qu'on en attend aussi autour de minuit, depuis le golfe de Gascogne en direction du centre Val-de-Loire. Alerte orange d'ailleurs aux orages dans les départements suivants. Écoutez bien, la Haute-Garonne, le Tarn, l'Aveyron, la Lozère, l'Ariège, l'Aude est repassée en jaune. Et puis pour la prochaine salve, la Gironde, la Dordogne, la Haute-Vienne, la Creuse et l'ensemble du Poitou-Charente. Alors ce mercredi, on remet ça avec les orages. Les trois quarts sud du pays seront concernés par un risque orageux. Il faudra vraiment se rapprocher du nord. Hauts-de-France, le Cotentin, les côtes nord-bretonnes, le pourtour du golfe du Lion aussi, pour vraiment éviter ces orages. Côté température, l'épisode caniculaire est en atténuation dans le centre-est. Donc, ça bouge pas beaucoup, oui, ça descend un petit peu, mais les températures nocturnes restent quand même chaudes à l'est. Donc, on peut compter jusqu'à 30-32 en moyenne vallée du Rhône, 26-28 en général et 20-25 près de la Manche et de l'océan. Je rappelle quand même qu'il y a quelques départements qui restent placés en alerte jusqu'à demain ou après-demain matin. La Loire, le Rhône, l'Ain, l'Isère, le Jura et la Saône-et-Loire.
Merci Marlène. Dans un instant sur Europe 1, Top à Wall Street. Et puis notre invité éco, Alban de Préville, il vous parlera de sa nouvelle application Dalma, une appli qui vous permet de bichonner vos chats et vos chiens. A tout de suite.
Europe 1. Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street sur Europe 1 avec Didier Hamot. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, Wall Street qui retrouve le chemin de la hausse ce soir après une pause de 3 jours.
Ça remonte, oui, de 2,15% sur le Dow Jones, 30 530 points après un long week-end, oui, de 3 jours. Le Nasdaq reprend aussi 2,5%, 11 069 points. Le marché américain a quand même affiché 3 semaines de baisse consécutive, rongée par la hausse des taux, par la remontée spectaculaire de l'inflation. C'est pas encore gagné, hein. Le volume est quand même assez faible ce soir à Wall Street, mais il y a des rebonds nets, des achats à bon compte sur Tesla, plus 9%, 711$, Apple, plus 3%, à $135,87, Google reprend 4%, Microsoft 2,5%, on a IBM qui regagne 2%, Intel 2% aussi à $37,73. En revanche, le pétrole campe autour des $110 et il se cale juste sous cette barre à $109,40, le baril américain. L'euro reste au-dessus des 1,05-1,0530 face au dollar.
La Bourse de Paris, elle a prolongé son rebond d'hier sur le CAC sans pour autant retrouver la barre des 6 000 points.
Plus 0,75%, oui, 5 964 points sous les 6 000. Les 6 000 points qui ont quand même été touchés en séance, mais ça n'a pas tenu. La hausse a été freinée par les craintes de hausse de taux, toujours et encore. Ce sont quand même quelques valeurs de technologie qui ont profité de la progression des indices. Soitec, plus 3,8%, 150,65€, alors que le fonds stratégique de participation a pris une part du capital du groupe de semi-conducteurs Soitec. STMicro aussi remonte de 2,5%, 32,32€. Et puis Dassault Systèmes, plus 0,6%, 34,08€.
Exception du jour, Didier, le secteur de la distribution qui n'a pas profité quant à lui de cette hausse du marché.
L'inflation qui galope plombe tout le secteur de la distribution, pas seulement en France d'ailleurs. L'anglais Tesco avait déjà prévenu il y a quelques semaines que les conséquences sur le porte-monnaie des consommateurs seraient profondes. En France, Carrefour recule ce soir d'1,8%, 18,29€. On a aussi Casino qui perd 2% à 13,90€. Ailleurs, les autres places financières en Europe sont en hausse légère, plus 0,2% sur le DAX à Francfort, Bruxelles plus 0,3, Milan plus 0,4 et le CAC 40 en hausse de 0,75%, donc 5 964 points.
Merci Didier Hamot.
Alexandre Lemaire sur Europe 1.
L'invité éco sur Europe 1, je reçois ce soir Alban de Préville. Bonsoir.
Bonsoir Alexandre.
Vous êtes le cofondateur et le PDG de Dalma. Alors Dalma, c'est une application toute jeune, hein. Elle a moins d'un an d'existence. Et c'est une appli entièrement tournée vers nos compagnons à quatre pattes, les chiens et les chats. Première question pour vous Alban de Préville, qu'est-ce que vous proposez exactement avec Dalma? C'est d'abord une assurance pour animaux, hein,
c'est
pour
ça.
Propriétaires d'animaux.
C'est ça, donc Dalma c'est une assurance santé pour les chiens et pour les chats, qui va vous permettre à la fois de vous faire rembourser pour n'importe quel type de frais vétérinaires. Donc si vous devez vous rendre en clinique pour un vaccin, pour une fracture, parce que votre animal s'est blessé, il va vous suffire, grâce à l'application, de prendre en photo votre facture vétérinaire et en 48 heures maximum, vous allez vous faire rembourser jusqu'à 100% de la facture en 48 heures.
Comment vous garantissez ce délai aussi court ?
On a une expérience 100% digitale et c'est vraiment ce qui nous permet d'être aujourd'hui les plus réactifs et les plus rapides du marché. Donc on a mis en place en interne la technologie qui nous permet de très vite comprendre quel est le montant à rembourser pour un client.
Donc, assurance santé pour les chats et pour les chiens à travers cette appli hein, que vous avez lancée il y a moins d'un an. Il y a d'autres services que vous proposez aussi sur votre application ?
Exactement. Donc, on va au-delà de l'assurance. Disons que notre vision, c'est d'être le partenaire bien-être pour tous les propriétaires de chiens et de chats en France. Donc, depuis l'application Dalma, vous allez aussi pouvoir être mis en relation en illimité 24 heures sur 24 avec des vétérinaires. Je vous donne un exemple, vous revenez chez vous le soir après une longue journée de boulot, vous rendez compte que votre chien s'est mal alimenté, qu'il n'a pas envie de partir se promener. Vous pouvez en 2-3 minutes rentrer en contact avec un vétérinaire par écrit qui est là pour vous donner des conseils sur le comportement, la santé, l'éducation de votre chien.
Donc là, pareil, réactivité aussi à l'autre bout de l'appli, on peut obtenir ces conseils rapidement ?
Ouais, exactement, ça c'est vraiment le maître mot de Dalma, c'est de créer l'application la plus réactive, la plus intuitive possible, surtout que ce marché aujourd'hui est trusté historiquement par des acteurs qui sont assez peu digitaux, sur lequel il y a eu assez peu d'innovation quant à l'expérience client.
Vous proposez aussi une option bien-être pour nos petits chats et nos petits chiens, ou gros chiens d'ailleurs. Expliquez-nous, c'est quoi cette option bien-être ?
Exactement, donc historiquement, le remboursement des frais de vétérinaire se passe lorsque votre chien se blesse, lorsqu'il a un accident, lorsqu'il a une pathologie. Nous, on a décidé d'aller beaucoup plus loin en termes de garantie, c'est-à-dire qu'on a créé ce forfait bien-être qui va vous permettre de vous prémunir contre ces maladies qui peuvent arriver. Donc, c'est une poche de 100 euros par an que vous allez pouvoir dépenser sur des soins de prévention, de médecine douce, comme les détartrages, les ostéopathies, les vermifuges, les antiparasitaires, etc. Mmh. Et ça, on est le seul aujourd'hui à le proposer sur le marché français.
Alors, c'est une appli tout en un. Vous faites chat et chien uniquement ou d'autres animaux? Vous ne faites pas les pitons et les migales, j'imagine, encore.
Non, pas encore.
C'est pas les nacs, nouveaux animaux de compagnie, ce n'est pas encore votre rayon.
Alors, pas encore, mais par contre, on va le faire.
C'est-à-dire vous allez le faire.
On s'est concentré sur les chiens et les chats parce que, évidemment, c'est la population animale la plus importante. C'est là où il y a un besoin qui est marqué et une attente de la part des consommateurs. Mais quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il y a beaucoup de nouveaux animaux, notamment les nacs, les hamsters, les chinchillas, les furets et les perruches, par exemple, qui sont en forte augmentation et sur lesquels les frais vétérinaires sont parfois très élevés.
Alors, une preuve, s'il en fallait, hein, que vous avez trouvé le bon filon avec Dalma, vous venez de lever des fonds, 15 millions d'euros. Vous allez faire quoi avec cette somme?
Alors, on va faire deux choses. Alors, déjà, on est très contents parce que ça récompense une année vraiment de très forte croissance pour nous. Donc, on est passé de 0 client à 20 000 clients qui nous recommandent tous les jours. Et on va faire deux choses. Premièrement, on lance notre application mobile à partir de septembre qui va devenir cette super app pour tous les propriétaires de chiens et de chats pour prendre soin de leur animal en quelques clics hyper facilement. Donc vous allez pouvoir vous faire rembourser vos frais de santé, vous allez pouvoir échanger en illimité avec des vétérinaires, vous allez aussi pouvoir accéder à du contenu écrit et vidéo pour vous donner les meilleurs conseils pour prendre soin de votre animal. Dernière fonctionnalité, vous allez pouvoir acheter en 2-3 clics les produits du quotidien comme vos croquettes par exemple.
Donc cette appli qui sera disponible sur iPhone et Android également.
Exactement.
Très bien. Vous êtes déjà implanté dans d'autres pays d'Europe, autres que la France, hein, vous...
Pas encore, mais ça c'est la deuxième raison laquelle on a décidé de faire rentrer des nouveaux investisseurs, c'est de commencer à s'étendre en Europe. Et le premier marché qu'on va ouvrir à partir de novembre prochain, c'est l'Allemagne.
Est-ce qu'on peut avoir une idée de vos tarifs d'assurance pour assurer son chat, son chien via Dalma?
Si vous avez, disons, vous venez d'adopter un chat comme beaucoup de Français juste après le confinement, pour vous faire rembourser, disons, 1 000 euros de frais vétérinaires par an, vous allez débourser 12,99 € par mois. Pour un chien, c'est un peu plus cher, de l'ordre de 17 à 18 euros par mois.
Votre appli, Dalma, elle permet de réduire cette facture qu'on connaît. Hein, si on prend soin de son chat et de son chien, c'est un vrai budget si on s'en occupe bien. On peut faire des économies à travers Dalma, justement?
Alors, vous allez faire des économies de deux ordres, disons. Premier type d'économie, c'est lorsque votre animal va se blesser, lorsqu'on va lui détecter une pathologie. Je vous donne un exemple, si vous avez un chien qui malheureusement se fait renverser par un cycliste, vous devez l'opérer en urgence, il s'est fracturé la patte, vous avez des séances de rééducation, vous allez devoir payer malheureusement plusieurs milliers d'euros. Donc on est là pour accompagner nos clients lors de ces gros coups durs. Et en plus de ça, on a fait le choix par rapport aux acteurs traditionnels d'être hyper compétitifs. Donc pour les gens qui veulent changer de contrat d'assurance, on permet d'économiser jusqu'à 100 euros par an.
Bon, c'est que le début de votre aventure, Alban de Préville. Vous sentez un gros potentiel de développement là sur cette appli pour chien et chat?
Oui, on voit un fort potentiel de développement parce que, disons, lorsqu'on observe le marché, on se rend compte qu'à l'échelle vétérinaire, ça coûte de plus en plus cher.
Bien sûr.
Et lorsque vous êtes confronté à une facture qui passe d'année en année de 80 euros à 100 euros, puis à 150 euros, vous posez la question d'assurer votre animal parce qu'on est là pour vous protéger contre des grosses factures.
Merci à vous, merci de nous avoir rendu visite, Alban de Préville, cofondateur et PDG de Dalma, application d'assurance digitale pour chiens et chats et pour bien sûr leurs propriétaires, leurs maîtres et maîtresses. Merci Alban de Préville, 22h28 sur Europe 1, dans un instant, les unes de la presse, bien sûr, comme chaque soir, et puis la libre antenne avec Olivier Delacroix, à tout de suite.
Europe Nuit. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Les unes de vos quotidiens demain matin. Emmanuel Macron à la recherche de l'introuvable compromis. C'est la une du Figaro. Emmanuel Macron qui tente de reprendre l'initiative en recevant les chefs de parti pour résoudre le blocage politique à l'Assemblée. Aucun consensus jusqu'ici n'a été dégagé. Avec 89 députés à l'Assemblée, voici le Rassemblement National à découvert. C'est le gros titre de Libé. L'entrée en force du RN à l'Assemblée a surpris les premiers intéressés, mais les expose plus que jamais. Le pouvoir d'achat et l'écologie seront au centre des priorités de la nouvelle Assemblée. Écologie, des scientifiques forment les nouveaux députés aux questions climatiques. C'est ce qu'on apprend à la une de 20 minutes. Pouvoir d'achat, demain le frisson des soldes d'été. C'est parti donc pour 6 semaines de rabais, cette période de promo qui pourrait être une aubaine dans un contexte de hausse des prix généralisée. La loi pouvoir d'achat, ce sera un test bien sûr pour la majorité. Prolongation de la remise carburant, nouvelle prime inflation, blocage du tarif du gaz, valorisation des retraites. Le plan du gouvernement destiné à aider les Français devrait être présenté en Conseil des ministres le 6 juillet prochain et débattu à partir du 18 juillet dans cette nouvelle Assemblée nationale. 22h30, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Europe 1,
et avec Olivier Delacroix, car c'est le début de la Libre Antenne. Bonsoir Olivier. Ah, on ne vous entend pas. Comment non. ça se fait? Si, ça y est, ça va
j'appuie,
mieux.
J'appuie.
Bon, tout va bien.
Ça va?
Ça va très bien, ça va. Bon.
Très bien. Alors, faites de la musique après, là, vous y allez?
Bah, il va être un petit peu tard, j'en ai peur, mais oui, pourquoi pas, c'est une idée, je n'y avais pas songé d'ailleurs. Tiens.
Mais oui, à minuit, vous aurez encore le temps.
Oui, mais il me semble qu'à minuit et demi, on baisse le son, c'est ça, hein. Je crois que c'est plus très intéressant
possible.
Après minuit et demi.
C'est possible.
Bon, après, l'idée, ce n'est pas de devenir sourd non plus, mais...
Non, mais tout, voilà, à minuit et demi, là, ça y est, on baisse le son.
Bah, c'est une mesure de protection des riverains, à tout le moins. Mais je pense que tout le monde a perdu l'habitude avec, vous savez, avec ces rues désertes, les restrictions sanitaires, le couvre-feu, ces rues silencieuses.
Ah oui, mais ça... moi, je me rappelle de fêtes de la musique vraiment torride.
Oui.
C'était vraiment.
Torride, à quel point de vue? Au niveau de la température,
non,
au niveau des décibels?
Oui, de la musique, des décibels, ouais. Des gens, des familles, parce que ça attire beaucoup de gens. C'est très populaire.
Mais ça fête. Cartonne toujours autant, hein, 40 ans plus tard.
Ah, mais moi, je suis parti de Montmartre. C'était. Incroyable.
C'est une noire
depuis
de monde.
19h, oui. Et puis c'est marrant parce que c'est vraiment c'est familial, c'est tout le monde va à cette fête.
Bah, très bonne ambiance.
C'est
en tout
au
cas.
Moins, au moins, on pourra reconnaître à Jack Lang qu'il a créé au moins un truc super.
Ah bah ça c'est.
Bon, après, je ne connais pas la carrière de Jack Lang, hein, mais la fête de la musique, bah, c'est une sacrée.
On peut pas lui dénier au moins la paternité de cet événement, c'est certain.
D'autant plus que nous avons été repris un peu partout en Europe, je crois.
Ça a complètement essaimé très très loin des frontières super. Françaises, bien sûr, ouais, bien sûr. Voilà. Dans le monde entier même.
Et l'équipe de France des espoirs, je crois, mène 2-0 contre la Roumanie. C'est une belle soirée.
Alors là, vous changez de sujet là.
Non, mais c'est parce que je vois que l'écran s'allume.
Pour vous, rien que pour vous.
Ouais,
du
exactement.
Foot.
Bon, tout va bien autrement ?
Tout va bien.
Dans l'actualité ?
Ben écoutez, oui.
Bon.
Vous m'avez donné une idée, là, ça y est, après minuit, d'aller prendre la température de la fête de la musique.
Ben
vous
oui, vous adorez le rock. Ben les auditrices et les auditeurs ne le savent pas, mais vous êtes un passionné de rock.
Mais comme vous, je crois, il me semble.
Oui, mais moi, les gens le savent.
Eh ben voilà.
Bon, ben écoutez, c'est très bien tout ça. On se retrouve à 23h,
à
ça, c'est
ouais.
sûr.
Impeccable.
Ok.
Avec plaisir.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Olivier.
Pour l'actualité à 23h et bien évidemment à minuit. Pour un journal
également
plus
à minuit.
Dense. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.